Véronique Salagnon. Alors j'écoute France Inter depuis ce matin et je viens d'entendre effectivement qu'il y aurait une prime de 100 euros pour compenser l'augmentation de l'essence. Alors je suis un petit peu scandalisée que cette prime soit versée à tout le monde parce que moi j'habite en milieu rural, aucun transport possible à part ma voiture. Et puis cela n'encourage pas justement à essayer de trouver d'autres solutions, même quand on habite en milieu rural. Moi j'aurais préféré souhaiter qu'on trouve d'autres méthodes, peut-être du covoiturage, peut-être des transports en commun. Donc on va encore dans le mauvais sens. Voilà, c'était un petit peu mon impression de ce matin en écoutant les informations. Bonne journée à tous.
Oui, bonjour, c'est Christophe de Haute-Savoie, Thonon-les-Bains. Alors, je suis content d'entendre cette émission, content aussi de savoir que vous émerveillez, les journalistes s'émerveillent d'avoir un peu les pieds dans la boue ou dans l'eau. C'est une bonne chose et ça fait plaisir d'entendre ça, plutôt que d'avoir des fois entendre un petit peu genre bobo parisien, sans que ça soit péjoratif. Mais voilà, du terrain, il n'y a rien de tel pour savoir de quoi l'on parle. Merci et bonne journée. Continuez. Au revoir.
Oui, bonjour Raphaël, ancien Vosgien qui habite à Paris aujourd'hui. J'entends votre reportage là sur les VTT en forêt vosgienne qui massacreraient les sentiers. Et quid des motos bruyantes qu'on entend du printemps à l'automne qui sont polluantes, bruyantes et qui effraient toute la nature, qui chamboule tout. C'est plutôt vers ça qu'il faudrait lutter. Voilà, je vous remercie et encore merci pour vos émissions qui sont superbes.
Bonjour, je m'appelle Lisa. J'habite à Tournemer, près de Xorologemer. J'ai jamais eu le droit d'avoir une barque pour aller sur le lac de Tournemer. Comment se fait-il que, venant de Paris, vous avez le droit d'y aller? Bonne journée, au revoir.
Oui, bonjour à tous. C'est Liane, je suis de Mulhouse. Et j'ai pour habitude de partir le week-end dans les Vosges. Marcher, me balader, respirer. Et je suis contente de vivre avec Mathieu et Camille, des moments que je vis régulièrement. Les Vosgiens, ce sont les Vosgiens. Ils aiment leur terre, ils n'aiment pas les partager. Mais sans nous, les Vosges ne seraient pas les Vosges. Une grosse bise à tous et merci. Continuez des émissions de ce genre. Ça fait du bien et ça fait connaître la région un petit peu différemment aux Parisiens. Et ça met en valeur les gens des régions un petit peu oubliées. Bise à tous.
Oui, bonjour, Mathieu et Camille, c'est Pierre de Peine du Tarn. L'émission que j'ai préférée, c'était l'émission avec Émunier, père et fils, c'était vraiment bien. Et ensuite, dans les tourbières, c'était assez drôle, parce que votre chute dans la tourbière, c'était assez drôle. Et puis dans les bottes de Camille, c'était pas mal aussi. Avec celle de Claudie Hunsinger, ça sera peut-être pas mal parce que j'ai lu Les Grands Cerfs et c'est vraiment très passionnant ce livre. Et à bientôt et bonne fin de séjour dans les Vosges, au revoir.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Et qu'il est passé vite notre automne dans les Vosges, notre semaine vosgienne touche en effet déjà à sa fin et nous allons profiter au maximum de cette dernière étape aujourd'hui. Nous sommes toujours au cœur de la forêt à Bambois, très exactement sur le versant alsacien, à quelques kilomètres du village de Kaisersberg. C'est là sur un balcon rocheux que vit l'autrice et plasticienne Claudie Hunsinger. Elle va nous accueillir chez elle dans un instant dans cette nature et cet environnement qui se retrouve régulièrement au cœur de son œuvre littéraire. Son dernier roman, Les Grands Cerfs, publié chez Grasset l'année dernière, se passe ici et il vient d'être adapté en bande dessinée par Gaëtan Nock. Et puis on fera connaissance avec son frère Dominique Schmidt qui est ornithologue et qui est devenu paysan après avoir été ingénieur agronome. C'est donc dans ce territoire d'exploration poétique que nous allons passer cette dernière journée pour questionner notre rapport aux animaux et aux plantes. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
À 14h30, Camille passe au vert avec votre dernière lutte de la semaine dans les Vosges.
Oui, un combat un peu David contre Goliath. Je suis allée du côté de Vittel où sont implantées les usines de Nestlé Nestlé Waters pour les eaux Vittel, Contrex et Épargne. Nestlé Waters accusé d'assécher les nappes phréatiques.
Et puis à la fin de l'émission, avant de se dire au revoir, eh bien nous vous proposerons une petite rétrospective justement de la semaine pour vivre les meilleurs moments de nos aventures vosgiennes. Valérie Ayestara et Stéphane Ronxin réalisent cette Terre au Carré. L'émission aujourd'hui a été préparée par Anna Massardier et Marion Philippe, avec Vincent Désir à Paris et notre super équipe technique emmenée par Romain Luquiens, Jérémy Tuile et Benoît Jégour.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
La Terre au Carré, tous les jours à 14h sur France Inter, dans le massif vosgien.
Ça va Camille?
Ça va plutôt pas mal.
C'est passé vite quand même. Hein.
C'est passé très vite, 5 jours, ça a été intensif, intense.
Tu te souviens quand on a eu cette idée de venir dans les Vosges, quand ça s'est passé dans le bureau là?
On était dans le bureau, on a dit faut qu'on fasse les saisons, l'automne, et là on s'est dit les Vosges, ça nous a inspiré l'automne, et en fait on n'est quand même pas déçus quand on voit les couleurs qu'on a eues toute cette semaine, c'est... digne des plus belles peintures, je pense.
Ah, je voudrais juste répondre au message de Lisa, là, qu'on entendait dans le répondeur, lorsqu'elle nous disait qu'elle n'avait jamais eu l'autorisation de se rendre en barque sur le lac de Retournemer, alors que nous, évidemment, on a pu le faire mercredi, juste pour lui dire qu'on a pu profiter de ce travail, grâce à Mathilde Esselin, qui est chargée d'études scientifiques au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, et qui procède à des relevés de température sur ce lac. Sans ce travail, effectivement, on n'aurait pas du tout été autorisé à nous rendre.
Non, c'était pas une promenade touristique.
Voilà,
c'était...
sur ce lac de Retournemer. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir profiter de cette petite fenêtre. Camille, Claudie Hutzinger nous attend derrière cette porte.
Cette porte d'une maison située à, on le dit, 800-900 mètres d'altitude et, ouais.
Et
entourée de forêt.
Le moment d'aller frapper chez elle. La voilà qui arrive. Bonjour Claudie.
Bonjour Claudie.
Bonjour, vous allez bien?
Merci beaucoup.
Oh, il fait bon chez vous.
Bonjour Camille.
Bonjour.
Il fait chaud.
Il fait chaud parce que dehors il fait très beau, mais petit vent.
Petit vent, oui, il fait frisquet.
Merci beaucoup de nous accueillir dans votre maison de Bimbois. Donc ici, on est à quelle altitude exactement, on se posait la question? À 750, voilà. Ah ben tiens, on a des bois de serre qui nous accueillent d'ailleurs dès l'entrée, au-dessus de l'armoire.
Oui, oui, oui. Alors là, ce sont des bois de serre, des cadeaux. Ce sont des bois de serre trouvés en marchant dans les prés. Et je les ai emmêlés avec des branches d'arbres, parce qu'il y a vraiment une analogie extraordinaire entre les bois des serres et les branches des arbres.
Alors c'est vrai qu'en venant dans votre maison aujourd'hui, on a presque l'impression de rencontrer un personnage à part entière, tellement on la retrouve dans vos différents romans en fait. Hein.
De quel personnage?
De votre
maison. La maison.
Ah oui, oui, c'est une maison qui a toujours différents noms.
Oui.
Une fois c'est Bambois, Bambois de les bois communaux, bois banal. Et Haute Hutte.
Ça c'est le dernier livre.
Oui.
Avec les grands cerfs.
Tout à fait. Les bois bannis dans le prochain.
Oui.
Voilà, oui. Plusieurs noms, parce que c'est chaque fois plusieurs atmosphères.
Et il y a votre frère aussi qui est ici.
Mon frère est là.
Voilà. Bonjour Dominique.
Mon frère Dominique.
Bonjour. Donc, je suis aussi habitant de la vallée et actif par rapport à la nature.
Alors vous m'avez dit, j'habite juste à côté, sauf que comme il n'y a pas de route, eh bien, je suis obligé de faire un grand détour pour venir voir ma sœur, c'est vrai?
Tout à fait, oui, oui, mais c'est l'intérêt de la montagne, c'est à la fois, il y a des recoins sauvages et que ça permet d'être finalement assez près des grandes routes, mais en même temps très éloigné.
Ouais. Ce sont des petits mondes isolés, ce sont des enclaves, ce sont des paradis successifs.
Donc là, on est dans votre petit monde et dans votre paradis, Claudie Hutzinger?
On est à Bambois, exactement, un lieu où nous nous sommes installés il y a plus de 50 ans.
Pourquoi un paradis?
Ce n'est pas un paradis. C'est mieux qu'un paradis. C'est beaucoup mieux qu'un paradis. Un paradis n'aurait pas de, il n'y aurait que la lumière. Et je trouve que la contradiction dans le monde tel qu'il est, elle est intéressante.
Et vous avez trouvé comment cette maison? C'est d'une beauté, il faut vraiment, on va le décrire tout à l'heure dehors avec Dominique aussi, mais c'est vrai que l'environnement est exceptionnel. Vous êtes au bout d'un chemin, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit.
C'est un chemin privé, parce que c'était au départ comme ça, il venait d'être ouvert par le paysan qui nous avait précédé. Et nous l'avons trouvé, cette ferme, dans les années 60, c'était au moment de la déprise agricole, de l'exode rural. Les terrains les plus difficiles étaient abandonnés. Donc nous sommes arrivés ici en 65, en même temps, d'ailleurs, que les cerfs. Les cerfs, c'était la même chose. On avait annoncé l'extinction des cervidés à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Et eux, ont profité exactement, comme nous, de l'exode agricole et ils sont venus dans les friches, les terrains qui étaient juste en lisière de la forêt et pas encore du tout dans la vallée, des terrains sauvages.
On ira sur le terrain des cerfs tout à l'heure, hein, puisque vous avez un affût qui est au bout de votre terrain et on ira y passer un petit moment. Vous dites que vous êtes arrivé, vous êtes installé ici par instinct, c'est ça ?
Par instinct, par grâce, par hasard. Toutes sortes de... On ne l'a pas vraiment cherché, on l'a cherché, mais difficilement trouvé. Et c'est une conjonction historique, celle de la déprise agricole, celle du renouveau des années 60, 70, qui nous a fait trouver ce lieu.
Les Vosges représentent quoi pour vous ?
Alors les Vosges, vous avez là derrière vous, vous avez le dieu Cernunnos, qui est un dieu gallo-romain. C'est un moulage d'une sculpture gallo-romaine trouvée dans la forêt par un bûcheron. Donc c'est un lieu celte. C'est un haut lieu également de cosmique. C'est un lieu qui avait été à la période de Wurm, qui a été entre moins 70 et moins 10 000, sous emprise glaciaire. On est là, on n'imagine pas, mais la ferme est située sur des moraines. On est dans une avalanche de moraines et de gros rochers. Pourquoi c'est difficile pour l'agriculture? Mais voilà, c'est un lieu où les aurochs, les bisons et les cerfs passaient et ont survécu parfois à la seconde glaciation. Donc les cerfs que nous rencontrons ici sont des cerfs très très particuliers. C'est pas du tout les mêmes cerfs que ceux des grandes plaines de l'Est.
Vous dites, Claudie Hunziger, en arrivant ici, on était comme des prisonniers sur une île et c'est devenu pour vous un concept de vie d'être prisonnier ici ?
Oui, au départ nous étions prisonniers parce que nous avions un troupeau. Francis avait fait l'école de berger de Rambouillet pour avoir un diplôme, pour que nous puissions nous installer et avoir des terrains et les acheter grâce à la SAFER. Et puis...
Tout en parlant, on va descendre au sous-sol.
Voilà, on descend au rez-de-chaussée.
Attention, les escaliers.
Parce que c'est là que sont les bases anciennes de la maison.
Voilà. Là où nous étions dans le fenil.
Donc le troupeau, vous tenez prisonnière.
Voilà, on était prisonniers de l'île. Prisonniers de l'île. On s'est vite aperçu que c'était une sorte d'île parce qu'elle n'était traversée par aucun chemin communal et que c'était quelque chose qui était resté très sauvage, une sorte d'enclave de sauvagerie. Et comme nous ne pouvions pas bouger, nous avons fait très vite de ce lieu qui semblait nous retenir prisonniers, un concept de vie, c'est-à-dire sur une île, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve
des trésors.
Des trésors, voilà, on trouve des trésors.
Alors là, on est vraiment à l'origine de la maison, elle date de quand ?
1770,
ouais.
Donc Goethe avait 20 ans, Mozart 7 ans,
ouais.
Quand elle a été construite. Le 18e siècle ici, dans cette pente des Vosges, qui est la pente alsacienne, qui est la pente solaire, était un grand moment de défrichage.
Ouais. Et donc là, on ouvre la porte, et là, bim ! Le paysage.
Alors là, va falloir nous décrire. Moi, vous savez, Claudine Seger, ouais. J'adore que les gens, nos invités, nous décrivent ce qu'on a sous les yeux, parce que vraiment, je le disais tout à l'heure, ce sont des... C'est presque plus beau que des peintures, Dominique. Est-ce que vous pouvez nous faire rêver, les gens qui sont en train de nous écouter, pour décrire ce qu'il y a sous nos yeux ?
Bon, eh bien, je dirais que la maison a été construite sur une sorte de balcon, en pleine pente. C'est une pente très raide. Et comme chaque ferme ici, qui est chaque fois des écarts, chaque ferme est construite sur le lieu d'une source. Donc, qu'on entend. Elle court et elle coule à longueur d'année.
Dominique.
Alors, devant nous...
Alors, Dominique,
il va
nous décrire le paysage, Claudie.
Donc, ce paysage est un paysage ouvert et c'est la création de l'homme. C'est-à-dire que ce sont les paysans qui ont défriché cette forêt et qui se sont installés. Donc, vivre ici dans la montagne et produire des produits agricoles, c'était extrêmement difficile.
Qu'est-ce qu'on voit alors ?
Ben, on voit des paysages ouverts, c'est-à-dire des prés de fauches, parce que l'hiver est très long ici, donc on a 6 mois d'hiver. Et donc, il faut pouvoir, avec des tracteurs, faucher l'herbe, la sécher et la mettre dans les greniers pour pouvoir nourrir les animaux pendant tout l'hiver.
Et des forêts, évidemment, au loin.
Et des forêts, au loin, mais aussi, il y a des pâtures, c'est-à-dire les endroits où les animaux sortent pendant toute la belle saison. Donc, il y a 6 mois Pendant la belle saison, les animaux sont à l'extérieur et pâturent, ils broutent l'herbe. Et 6 mois, les animaux sont à l'intérieur, on leur donne le fourrage récolté.
Et Claudie, posez sur la fontaine les légumes du jardin. Mais vous avez des sacrées carottes, dites donc.
Oui, en effet.
Elles sont énormes.
Elles sont une belle année, oui.
Alors que les potimarrons sont plus petits, mais alors les carottes, c'est des...
Oui, oui. C'est un jardin potager qui est juste sous la maison.
Allez, on continue notre balade. On va rejoindre l'affût tranquillement pour parler de ce territoire des grands cerfs dans votre maison et votre domaine. Claudie Hutzinger, merci de nous accueillir cet après-midi avec toute l'équipe de la Terre au Carré.
Équipe de la Terre au Carré, bienvenue dans les Vosges.
Et nous sommes avec Claudie Hunsinger dans sa maison de Bimbois, ici dans les Vosges, à 700 mètres d'altitude. Et on est en train de prendre la route de votre affût, Claudie. Lorsque vous avez publié Bimbois en 73, vous dites que les journalistes ont défilé chez vous et vous avez été moqué de façon cinglante par Charlie Hebdo, par exemple, qui vous traitait de Marie-Antoinette dans son jardin du Trianon.
Oui, parce que pour eux, la lutte, la seule lutte qui était possible, c'était celle dans les villes, celle pour les usines, qui se passait dans les usines.
Comment vous luttez d'ici alors, vous ?
Pardon ?
Comment est-ce que vous luttez d'ici ?
Ah, d'ici. Alors là, justement, c'est quelque chose qui a tout à fait changé comme point de vue. On a pris conscience que la nature, que la montagne, que les forêts faisaient partie de la même lutte, je dirais, anticolonialiste, anti-impérialiste. Et ça, c'est grâce à Philippe Descola. C'est-à-dire que nature et culture ne sont plus séparées. Et voilà, c'est une prise de conscience ultramoderne.
Vous dites qu'il s'agissait d'une décision poétique de venir vivre ici, hein ?
Ici, ça a été une décision poétique, en effet, pour mon compagnon et moi. C'était d'abord rejoindre les éléments, rejoindre le givre, rejoindre la neige, la pluie, les orages, le fenil, les famines, le troupeau, le suinte, la laine, c'est-à-dire tous ces mots riches de sensations et de substances, le monde dans sa substance et pas seulement dans ses idées.
On est en train de traverser les fougères, hein. Il y a beaucoup de fougères autour de nous, avec ces couleurs d'automne magnifiques. Vous aimez cette saison ici ?
Je trouve que, oui, évidemment, la saison de l'automne est la plus lumineuse. C'est un moment où le paysage lui-même sécrète la lumière. La lumière ne vient plus du ciel. La lumière vient des vergers, vient des forêts qui sont comme des lampes allumées.
Dominique, vous qui êtes ornithologue, on n'entend pas beaucoup les oiseaux en ce moment, hein ?
Ah ben, c'est l'automne et les changements climatiques ont fait aussi qu'on a vraiment des saisons tout à fait particulières. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, on s'est retrouvé avec des très fortes chaleurs et donc beaucoup d'arbres ont fait leurs bourgeons et ensuite on a eu pratiquement du moins 20 pendant 10 jours, ce qui fait qu'il n'y a aucune baie d'alisier, aucune baie de sorbier. Et normalement, ici, il y a des milliers d'oiseaux migrateurs qui profitent de ces baies pour se nourrir tout l'automne.
Vous dites que ce sont les oiseaux qui vous ont donné envie de devenir paysan, c'est vrai ça ?
Oui, tout à fait. Donc j'ai découvert les oiseaux quand j'avais à peu près 10 ans et j'étais citadin à l'époque, je vivais à Colmar, qui est à 30 km d'ici. Et puis de voir le milieu extraordinaire de la plaine, qui était le ride, disparaître, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour la nature et donc je suis devenu ingénieur agronome. Et puis pendant mes études d'agro, j'ai découvert que c'était finalement le milieu agricole qui était important pour la sauvegarde de la nature. Et donc je suis devenu paysan.
Alors, il y a une barrière que nous devons franchir en nous baissant entre un bout de bois et, attention,
heureusement, un fil. Il n'y a pas de fil électrique.
Pendant
ici,
que Dominique passe aussi et que toute l'équipe technique, Jérémy, Romain, Benoît ainsi que Chantal Le Montagnier passe en dessous.
T'as vu Camille, on a une petite surprise pour toi là-bas.
C'est des ânes, alors
il y en a trois.
Incroyable. Claudie, est-ce que vous pouvez me les présenter, ces petits ânes que je vois au loin, derrière les arbres et les fougères ?
Ils sont trois, ils sont à nous. Ce sont des aides, ce sont nos jardiniers. Ils nous aident à travailler tous les prairies de friches, les ronces, les fougères.
Qu'ils ont des noms, parce qu'hier on était avec un agriculteur à Mittlar, vous connaissez le nom de toutes ces vaches ?
Alors là, l'aîné, le plus grand, c'est Khazar. C'est un mâle et puis il y a deux petites femelles, Mirabelle et Myrtille.
Voilà, et on a fait un live sur Instagram avec eux tout à l'heure.
J'étais pas là, j'ai loupé.
Voilà, alors il y a plein de petites crottes là, enfin des belles crottes
là,
d'ailleurs,
Claudie. Attention en descendant là.
Claudie, c'est, vous m'avez dit que ces crottes d'âne, elles vous servaient à faire de l'art, c'est ça ?
Oui. Quand nous avions fait de notre immobilité un concept d'aventure, en vivant ici sur place, en se disant on va sur place, on va s'en sortir, sans bouger. On va trouver matière à création ici. Alors oui, en effet, j'ai travaillé avec les déjections, d'abord les crottes des lièvres, avec une exposition à Beaubourg, l'atelier des enfants, pour leur expliquer à quel point ce que les lièvres faisaient avec l'herbe dans le chaudron de leur estomac, qu'ils rendaient sous forme de petites sculptures sèches et adorables. Je faisais pareil avec moi un chaudron quand je travaillais le papier.
Mais est-ce que c'est pas un petit peu privilégié quelque part d'habiter dans ce genre de contexte? Ce n'est pas donné à tout le monde.
Ce n'est pas donné à tout le monde de ne pas s'en faire d'avoir froid, de ne pas s'en faire d'avoir un chemin difficile, de ne pas s'en faire d'être en contact avec la tempête, de ne pas s'en faire d'avoir le gel et la neige. C'est peut-être pas donné à tout le monde d'aimer ça. Voilà, les difficultés. C'est une vie de bataille.
Claudie Hunsinger, justement, vous parliez des enfants. Vos enfants, certains d'entre eux vivent ici. Quand on arrive dans ce lieu si perdu, avec les conditions très difficiles de vie pendant l'hiver, est-ce que c'est important de former une tribu, justement ?
Au départ, oui, en effet. C'est grâce à ce que la tribu qu'a été ma famille autour de moi, quand nous nous sommes installés ici, en toute inconscience, Francis et moi, et avec nos deux enfants, la famille a été là pour dire, voilà, Chloé, ma fille, ou Robin, mon fils, on va les élever là en bas. Ils vont pas rester là-haut sans aller à l'école, c'était pas possible.
Voilà, on a eu une séquence âne, là, évidemment, parce que tout le monde est arrêté.
Les ânes sont venus autour de nous, il faut le dire aussi. Hein, ils sont là tranquillement. Ah ben voilà, ils nous disent bonjour.
Absolument.
Ouais, grands yeux.
Là, celui-là, le petit gris, c'est
Mirabelle.
Mirabelle. Bonjour Mirabelle.
Et puis voilà, les oreilles sont des merveilles. Et ils sont là, ils sont très, 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 très amicaux.
Claudie, on est arrivé vraiment sur le territoire des grands cerfs ici.
Ici, on est dans un vallon, un mini vallon, très protégé. Il n'y a aucune piste communale qui nous traverse.
Non, je me feuille, pardon.
Il y a tout autour une sorte de... C'est ce qu'on appelle le chemin de ronde qui nous protège, qui nous cache. C'est un lieu caché. Ici, c'est presque un sanctuaire. Un sanctuaire où les bêtes, les arbres sont chez eux.
Voilà. Et les grands cerfs et les ânes vivent ensemble?
Alors les grands cerfs, ils aiment beaucoup cet endroit, et plus loin encore, l'endroit, la moraine qui dévale, parce qu'elle est en retrait, elle est protégée, parce que personne ne les voit. Et en effet, ânes et cerfs font très très bon ménage. Ils n'ont pas peur les uns des autres.
Mais c'est quoi ce rugissement? On dirait un lion.
Non.
C'est le bruit de l'âne.
un âne, il braille. On parle des braillements de l'âne.
Là, c'est quoi qu'on entend? C'est un...
Vous entendez?
Un braillement.
Vous entendez un braillement?
Oui, c'était l'âne, tout simplement. Ah. Claudine Singer, on va se rejoindre dans un instant, parce que votre affût est ici. C'est là que vous avez passé de très très longues heures, de jour comme de nuit, pour observer les grands cerfs. Et on en parlera évidemment avec vous, puisqu'il est déjà 14h30.
France Inter. La Terre au carré.
Et c'est l'heure de retrouver Camille Passauvert avec toujours les combats du côté des Vosges. Camille, et aujourd'hui un sujet qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de vagues.
L'eau au cœur d'une lutte hautement ambitieuse, puisqu'elle s'attaque au géant industriel Nestlé Waters, propriétaire ici des eaux de Vittel, Contrex et Épare. Il y a deux usines, une à Vittel et une autre, la plus grande, à Contrex et Ville, 900 temps plein. Des usines où m'ont emmené Bernard Schmitt et René-Louise Rothiot, médecins retraités qui mènent le combat avec leur collectif L'eau qui mord et O88.
C'est immense, je ne sais pas combien ça couvre d'hectares. L'essentiel de l'embouteillage se situe ici.
1,4 milliard de bouteilles sortiraient chaque année. C'est bien plus que lorsque Nestlé Waters est entré au capital de la société des eaux de Vittel dans les années 60 et en détient aujourd'hui presque 100% depuis les années 90.
Pourquoi on se mobilise maintenant? C'est que pour le Bureau de Recherche et de Géologie Minière, le BRGM, au-delà de 2050, la nappe profonde est fichue, c'est-à-dire qu'elle est remplie d'eau qui viendra par un mécanisme de surverse saliniser cette eau qui ne sera plus potable pour les populations. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut stopper la surexploitation de cette nappe profonde afin qu'elle commence à se recharger. Elle devait être à l'équilibre en 2015. Ça a été reporté en 2021 et maintenant reporté en 2027. Je dis que c'est criminel.
Vous parlez de pillage industriel ?
Oui, pillage industriel. Il y a trois nappes sous nos pieds et Nestlé pille tout. Il est dans les trois nappes. Que Nestlé n'ait pas envie de partir, on comprend bien. C'est une multinationale. Ils sont là pour faire du profit. Ils se foutent complètement de ce que deviendra à l'avenir ici des gens. Hein, mais que les politiques ne tirent pas la leçon. Malgré ça, on a des dirigeants qui ne sont pas capables de dire maintenant, on arrête.
Et oui, parce que tous ces prélèvements, je le rappelle, sont parfaitement légaux. Alors Nestlé Waters indique les avoir presque divisés par deux depuis 20 ans dans la nappe Grédutria inférieure, c'est celle qui est menacée, de sa propre initiative, environ 500 000 mètres cubes par an aujourd'hui, mais c'est toujours trop pour les opposants et surtout...
Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en compensation des baisses de prélèvements dans cette nappe profonde, ils ont obtenu des prélèvements supplémentaires dans les nappes superficielles. Donc en fait, ils n'ont rien diminué du tout.
Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez ici ? Je travaille à France Inter. Je fais un sujet sur le problème que certains dénoncent. Sur.
Pour l'instant, voilà. Si vous plaît,
bah, je ne peux pas discuter avec les gens ?
Non, juste on doit attendre notre responsable
voilà, qu'elle va vite. Répondre
d'accord.
De toute façon, donc,
Bon, ok. Si. Bon, les responsables avaient tous piscine, hein. Du coup, le groupe m'a répondu par mail, c'est déjà ça, et insiste sur le fait qu'une gestion pérenne de la ressource en eau est un enjeu prioritaire, je cite, mais il y a des gens autour qui n'y croient pas.
Nestlé nous dit, n'ayez pas peur, de toute façon, si vous n'avez plus de l'eau, vos robinets, on vous en vendra. Et puis, ils veulent venir piquer notre eau. Ben, attendez, où on va ?
Pas content, le Jean-Marie, comme on dit ici, dans un village sur lequel le groupe lorgnerait, parce qu'il est partout dans le secteur. René-Lise Rothiot va même plus loin.
Ils ont une emprise totale sur le territoire, quoi. Emprise sur les habitants, emprise sur les politiques. C'est Nestlé qui fait la loi ici.
Omniprésence qui se confirme en interrogeant les habitants au hasard.
Sans Nestlé, Vittel, ça n'existe pas. Sans Nestlé, Contrex, ça n'existe pas. Donc je peux pas me permettre de critiquer... L'usine, parce que ça fait vivre tout ce qu'il y a autour.
Donc il y a vraiment une, je dois dire, une sorte d'emprise du groupe ici, quoi.
Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui.
Ma génération, il y a quasiment un ou deux parents qui travaillent à Nestlé.
Vous connaissez des gens qui y travaillent ou pas ?
Mon père.
Ici, c'est un peu la ville de Nestlé Waters.
Disons qu'il y a un certain monopole de Nestlé, bien sûr.
C'est Nestlé Land ou Nestlé Ville, comme on veut.
Alors me voici sur la route avec Bernard Schmitt, qui ne manque pas non plus de me faire remarquer quelques particularités en passant devant l'une des usines.
Il y a la voie ferrée qui passe dedans, il n'y a plus de train de voyageurs, c'est que pour Nestlé.
Parce que j'ai vu la gare de Vittel en fait hier,
ouais,
mais... Et il y a zéro passager...
C'est fini, enfin c'est des bus.
Mais les trains qui roulent, c'est que de la bouteille Vittel.
C'est
quoi.
Que de la bouteille Vittel.
Une 4 voies à 110 km/h a aussi été aménagée entre les deux sites pour que les camions aillent plus vite. Nous, on roule en direction d'un site découvert il y a quelques années à moins de 10 km de Vittel. Nous y voilà.
On est dans la forêt de Tessou-Montfort et on longe en même temps une espèce de butte qui fait une centaine de mètres de long. Et donc cette butte, en réalité, c'est une décharge plastique industrielle. Ça a été découvert par hasard par une personne qui cherchait des champignons. Elle a trouvé que ça faisait ce bruit-là. Peut-être on va pouvoir l'enregistrer. Voilà, ça faisait... Donc elle s'est dit, tiens, c'est pas un bruit normal de feuilles mortes, ça. Voilà, et en regardant par terre, elle l'a vu.
Il y a des centaines de bouteilles plastiques devant nous.
On a bien la... La marque de Vittel avec le V de Vittel et la croix de Lorraine.
Donc, elles ont quel âge ces bouteilles ?
Entre 50 et 30 ans.
Donc là on voit avec l'érosion la partie visible. On a appris qu'en réalité ici au départ avait été creusée une fosse gigantesque dans laquelle les bouteilles étaient amenées, brûlées.
Et donc ça c'est quoi comme type de plastique ?
Ça c'est du PVC, donc qui contient plein de chlore, c'est toxique.
Avec une pollution des sols certaine, hein, selon lui. Nestlé Waters me dit que des analyses sont en cours. Les résultats devraient tomber dans les semaines qui viennent. Il y aurait au moins 4 sites de ce genre, antérieurs à l'acquisition de l'entreprise par Nestlé Waters. Mais je précise qu'elle était déjà au capital à l'époque. Pollution qui fait tâche, hein, pendant qu'au sujet des nappes phréatiques, l'étau se resserre. La chaîne de magasins Lidl en Allemagne a annoncé cette semaine arrêter de vendre de la Vittel. Le combat David contre Goliath n'est pas complètement plié.
Et c'est Camille Passauvert que vous pouvez bien sûr écouter sur la page de la Terre au Carré.
Claudie Hunsinger, les engagements, les luttes, là vraiment c'est ce qu'on dit David contre Goliath, ce sont des citoyens face à un groupe aussi gros que Nestlé Waters pour ce dossier sur l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est quelque chose qui me concerne complètement. En 50 ans, je suis passée à une phase de lutte et d'émerveillement personnel, à une prise de conscience. Et prise de conscience collective, c'est quelque chose, la façon dont je vis ici, est quelque chose qui est absolument dépendant de ce qui se passe sur la Terre entière. C'est la même chose, on n'est pas à l'abri. Il n'y a plus d'abri possible, il n'y a plus de cabane possible, il n'y a plus de paradis privé possible. Voilà, donc par exemple, jusqu'à présent, moi je ne m'étais jamais engagée dans quoi que ce soit. Et Et les serres, et la présence des serres et des clans de serres qui étaient quelque chose de fastueux, qui nous entouraient, des serres qui ont assisté à la naissance de l'humanité. Lascaux, ils sont là. Et par les aurochs et les bisons, ils ont disparu des Vosges. Il reste les serres. Et les serres qui ont assisté à la naissance de l'humanité sont en train d'assister à la désintégration de la terre elle-même. Donc les serres, c'est pour moi, sont des personnages extrêmement importants. Il y en avait un quand on est arrivé, puis il y a eu un clan. Et maintenant, ce clan, il est dévasté à la fois par l'ONF et par les chasseurs. Et pour la première fois, moi, je me suis investie dans quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai signé une pétition sur opinion.com pour que la chasse aux cerfs pendant le brame soit quelque chose de refusé.
Alors justement, Claudie Hunsinger, on a eu tout à l'heure une petite pirouette là. Voilà, c'était pas l'âne qu'on entendait, c'était le brame du cerf.
Brame, voilà.
Donc on va l'entendre.
Je l'ai entendu plus tard.
Voilà, on l'écoute. Vous l'avez entendu quand, ce brame, pour la dernière fois ici?
Le brame, quand on est arrivé, au départ, il se passait ici. Il luttait sous nos fenêtres. J'entendais le choc des os, des bois, enfin, ce qu'on appelle les bois ou la ramure. Et puis, ils sont allés plus haut, parce que voilà, l'espace était plus sauvage. Les places de brame, maintenant, sont plus hauts. Donc, les cerfs, ils sont dévastés. La préfecture... Ce printemps a demandé qu'il y ait une éradication de l'espèce. Elle a demandé ça aux chasseurs eux-mêmes, qui eux-mêmes n'ont pas supporté ça. Ils ont dit, nous ne sommes pas des braconniers. Donc voilà, il y a une espèce là qui est menacée.
Au nom de la régulation officielle, c'est ça, hein?
Je ne sais pas au nom de quoi. Au nom du phallocentrisme, je dirais, de l'État.
Ouais. Vous dites que dans les écoles, ici, on va dire aux enfants qu'il y a trop de cerfs dans la forêt?
Oui, c'est ça. L'ONF fait des choses comme ça.
L'Office national de la forêt.
Oui.
Claudie Hunsinger, on est ici juste au pied de votre affût. On va y aller parce que c'est aussi un des personnages de votre dernier roman, Les Grands Cerfs, puisque vous avez passé énormément de temps dans cet endroit, cet affût qui est devenu une passion, l'observation des cerfs qui est devenu vraiment quelque chose d'obsessionnel, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et vraiment, ça a commencé pour vous avec l'installation d'un affût, c'est ça?
C'est l'installation d'un affût qui a été fait par un ami photographe.
C'est vraiment au milieu.
Et cet ami photographe a été à la fois quelqu'un qui m'a complètement initié.
Attention aux rochers et aux ronces.
Voilà. Initié à tout.
Ouais, je vous laisse passer, Claudie. Attention, vous avez votre pull pris dans les ronces. Voilà.
Ce n'est pas grave. Voilà, j'ai défait. Il y a un petit cadenas. Ce petit cadenas, il y a une petite clé.
Est-ce qu'on peut juste dire, Claudie, quand même, que si on n'a pas l'œil aguerri, cet affût est vraiment invisible là au milieu de la... C'est évidemment le principe, mais le réaffirmer que c'est invisible. Hein.
Il faut se rendre invisible pour arriver à voir l'invisible. Voilà.
Alors on ouvre la porte de l'affût et nous allons pénétrer à l'intérieur. Et ça tombe bien parce qu'il y a juste de la place pour trois, Camille.
Hop.
Donc on va s'installer ici.
On baisse la tête.
Voilà.
C'est entouré de filets de camouflage militaire. Hein. Hop. Petite cabane.
Avec quelques toiles d'araignée, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu ici. Hein.
Oui, ça fait voilà. Plus de 2 ans.
Ouais.
Plus de 2 ans que je ne suis plus venu ici parce que le clan a été décimé.
Et vous dites, c'est une boîte sombre avec la bizarre impression d'être introduit dans son propre crâne pour y asseoir et de n'être que son regard tapis derrière ses yeux.
Voilà, on est dans une obscurité, dans un lieu très petit, clos. Devant nous, il y a une vitre. La cabane a été... L'affût a été placé de telle sorte qu'on soit face à l'étang, qu'on soit face à la petite vallée qui est le lieu du matin, le lieu du soir pour les cerfs. Et oui, on est comme à l'intérieur de son crâne.
Combien de temps vous pouvez passer dans cet affût?
Alors, cet affût a été le premier des affûts et presque celui de mes premières expériences qui sont révélées d'ailleurs assez décevantes parce que ça ne se limite pas du tout à un affût. L'observation des cerfs demande d'abord l'observation du terrain qu'ils fréquentent. Et il faut s'y construire des sortes de petites cabanes, de branchages, ou à l'abri d'un rocher, se camoufler complètement dans différents endroits, et connaître ces différents endroits. Parce que, voilà, ils sont là peut-être, ils viendront là 3 soirs ou 3 matins, puis plus pendant 6 mois. Il faut connaître leur... C'est vraiment tout un apprentissage. C'est une initiation.
Pour ceux qui nous rejoignent en direct sur France Inter, nous sommes donc ici dans cette vallée vosgienne à Bimbois, dans l'affût de Claudie Hunsinger qui nous accueille dans sa maison, tel que vous étiez vous dans l'observation de ces grands cerfs qui sont les héros de votre dernier roman et qui sort d'ailleurs en BD. Hein.
Oui, sort en BD parce qu'il y a un garçon qui nous a contacté, Gaëtan Nock, et qui souhaitait faire un roman en graphique. Donc il est parti du livre de mon roman chez Grasset des Grands Cerfs et il est venu à deux trois moments différents de l'année et il a fait des dessins. Voilà, il a fait des dessins et c'est un livre qui est somptueux. C'est un livre très naturaliste, c'est très bien observé, c'est magnifiquement dessiné. Absolument. Dans une sorte d'ambiance onirique bleu de nuit. Il y a toutes ces bêtes qui semblent sortir du bleu de la nuit. C'est un très beau travail.
Avec votre personnage Pamina, hein ?
Oui, Pamina. Ouais. Un double.
Claudie Hunsinger, est-ce que cet affût, en particulier celui dans lequel on se trouve, vous a donné un regard peut-être différent sur l'environnement qui nous entoure ?
Oui, à la fois l'affût dans lequel je suis invisible, où je me fais très discrète, où je n'existe pas, et ce qui est une possibilité, quand on se fait très discrète, invisible, c'est de disparaître soi-même, et de se sentir... C'est ça la grande leçon que j'ai de mes 50 ans ici dans ce lieu restreint, dans cet îlot, dans cette île de montagne. La grande leçon c'est ça, c'est d'avoir pris conscience que ma part humaine n'était pas du tout séparée de ce qui m'entoure. Il n'y a pas une séparation irréductible entre la nature et entre nous les humains, la culture. Et
justement, vous parlez des bêtes comme une extension, hein.
Voilà, exactement, c'est ça. Quand je vois un cerf et que je suis là, caché, hop, c'est direct. Hop, par le désir d'ailleurs, par la beauté qu'il représente, on devient le cerf. On regarde un arbre, on devient l'arbre. On devient le merisier rouge incarnat. On devient les fougères jaunes d'or à regarder simplement. Il y a la part humaine dans la nature, elle ne compte presque plus. Notre part humaine ne compte presque. C'est ça la prise de conscience. Nous faisons partie d'une totalité.
Qu'est-ce que ça fait d'être un cerf ?
Ah, d'être un cerf, c'est... Alors, on bondit, on se sauve, on fuit les humains.
On va bondir un petit peu nous aussi. Allez, on va sortir de l'affût, rejoindre votre frère dans un instant, marquer une petite pause avec Giorgio, et on se retrouve juste après Claudie Hunsinger. Allez, c'est bon.
Espérer un paradis quand tu reviens des enfers. Les mensonges créent des légendes, mais pas des hommes légendaires. J'ai comblé le manque par l'excès, abusé du bon comme du mauvais. Non, le monde n'est pas injuste, il est juste comme on l'a fait. Tu sais, le succès ça isole. Mes rêves d'enfant dans ma camisole. Tu peux aligner des mots sans rien dire de toi. On se voit tous les jours, on se connaît pas. Liguer les uns contre les autres. L'égoïsme en mode survie. Et si on veut que ça bouge, c'est pour les nôtres. C'est maintenant, il faut pas attendre ici. Pour l'instant je danse, je pense à rien. Pour l'instant je danse, je pense à rien. J'attends que tu me tends, me tendes la main. Pour l'instant je danse, je pense à rien. Et sans doute qu'il y a quelque chose en toi qui t'éloignerait des doutes et de Pôle emploi. Une envie, une passion, une découverte, une promesse, une rencontre, une phrase toute faite. On espère des jours meilleurs, de gagner au loto sans même y jouer. On se contente de financer l'amour en produits dérivés. Se mettre à prier sans même y croire, pendant qu'on consomme de belles histoires. Les enfants du monde nés pour s'aimer, ont divisé la terre en territoires. Changer l'eau en vin, le plomb en or. Trouver des plans cul comme réconfort. Nos cœurs et nos esprits en désaccord. Alors on sort la nuit, on s'évapore. Pour l'instant je danse, je pense à rien. Pour l'instant je danse, je pense à rien. J'attends que tu me tends, me tendes la main. Pour l'instant je danse, je pense à rien. Dans nos cœurs il fait froid. Dans nos cœurs il fait froid. C'est pas un film qu'on vit, non. Arrête ton cinéma. Dans nos cœurs il fait froid. Je pense à ces débounards.
Laramie, Mouchine, Adama, Ange du Binécha. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien.
Je suis Eric Givelt, Hola Dog, Am Tsai, au France Inter et Massif Vosgien.
Et nous sommes à Bambois, donc ici sur le versant alsacien des Vosges pour cette dernière étape des quatre saisons de la Terre au Carré avec Claudie Hunsinger et son frère Dominique Schmitt. Parlez-moi un peu de votre grand-père Dominique, je crois qu'il a joué un rôle très très important dans votre relation à la nature justement. Et hop, l'âne passe en même temps.
Ah bah c'est le grand-père, oui, qui m'a un peu initié à la nature et qui a démarré ma passion des oiseaux. Mais ce dont j'aimerais vraiment parler, c'est justement mon combat à moi, c'est l'agroécologie. Ouais. C'est-à-dire de montrer qu'on pouvait être paysan et protecteur dans la nature. Très souvent, on a l'impression que si on est protecteur dans la nature, on ne va pas pouvoir vivre notre métier. Et donc, moi qui n'étais pas paysan d'origine, j'ai un peu cumulé tous les handicaps puisque me suis installé dans la nature alors qu'il n'y avait pas d'exploitation, il n'y avait rien. Et il fallait créer une exploitation qui tienne la route et qui concilie à la fois production agricole et nature.
Vous dites ça par rapport évidemment aux critiques que reçoivent régulièrement les agriculteurs.
Oui, donc surtout dans la vallée, les agriculteurs ont été conduits à vendre leur lait à Lactalis. Et donc on leur explique que ce qu'ils produisent, ce n'est pas un produit de montagne de qualité et qui a une très grande valeur, mais que c'est un produit industriel qui vaut 30 ou 40 centimes le litre de lait.
Tous les jours, cette semaine, à 14h, France Inter est dans les Vosges.
Et pour le plaisir, on retrouve tout de suite les meilleurs moments de la semaine du parcours de Camille Cronier et Mathieu Villard.
J'avoue que j'ai une situation privilégiée. J'ai des renards, j'ai des blaireaux, des martres, des fouines. J'ai le cerf, bien sûr, le cerf. Et ça, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines à peine, d'avoir eu des cerfs qui sont venus bramer devant la maison quasiment. Et d'entendre la saison des amours de cet animal incroyable depuis la fenêtre, c'est quand même quelque chose d'assez chouette.
Ouais. C'est vraiment dans cet environnement que vous avez grandi, en allant très tôt sur les traces des animaux sauvages ici.
Oui, c'est ça. Donc, des premiers affûts, c'était encore une fois grâce à mon père, hein, à l'âge de 12-13 ans. C'est lui qui m'a vraiment initié à ça. Avant la photographie, c'était surtout la manière de tenter d'approcher les animaux sauvages sans les déranger. Et c'est ici, oui, mes premières nuits sous un sapin, c'était pas très loin, pour tenter d'observer le grand tétras, et puis tout plein d'autres espèces.
Et alors, votre première rencontre, c'était avec qui?
Première rencontre, c'était un chevreuil. C'est vraiment ça qui a été un déclic, c'est le cas de le dire, et qui m'a permis vraiment d'être complètement fasciné, passionné par les animaux sauvages.
Mardi, nous étions dans la forêt située près du lac de Pierre-Percé avec le microbiologiste Francis Martin et l'écologue forestier Jean-Luc Dupouet.
Qu'est-ce qui se passe, Francis Martin ?
Je ne peux pas résister, je vois une amanite plumouche, le champignon emblématique avec son chapeau rouge et ses points blancs. Ça fait une semaine que je les cherche.
C'est vrai ?
Pourquoi ?
Et parce qu'il sort, d'habitude, il sort beaucoup plus tôt. Et ce vallon du Chararupt en est couvert.
Et qu'est-ce qu'il a de spécial, celui-là ? Alors pourquoi vous le cherchez tant que ça ?
Vous ne savez pas ?
Bah non.
Si vous dégustez la petite cuticule qui se trouve sur le chapeau, vous pourrez parler aux dieux.
Ah oui, carrément.
Les chamans utilisaient ce champignon pour dialoguer avec les anciens et avec les dieux.
Vous allez les
tester.
Donc
éventuellement pour ce soir, je vous récolte un chapeau, vous prenez la cuticule, vous la séchez et puis vous la fumez.
Oui. Si on n'est pas à l'antenne demain, on saura pourquoi.
Ça promet, effectivement.
Donc je vais le chercher.
Et vous, Jean-Luc, vous nous disiez tout à l'heure avant de commencer, je veux absolument vous montrer une plante très ancienne.
Ah ben, on peut commencer par ça. Oui, là, on est entouré on a de la chance, hein, on tombe sur une rareté botanique lorraine, qui s'appelle le lycopode.
Ah, alors allons-y, allons voir le lycopode.
On est dedans, là.
Voilà.
On marche dedans, dessus, attention. Non?
Ah, je suis dans le lycopode.
Alors, c'est une plante protégée, donc on n'a pas le droit de la ramasser, donc je vais pas en prendre de morceaux. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette plante, c'est une famille, les lycopodiacées, qui est parmi les plus ancestrales de la flore française. C'est des plantes qui, à l'ère carbonifère, donc il y a plusieurs centaines de millions d'années, faisaient des arbres. Ce qui est assez étonnant, c'était même les seuls arbres de l'époque. Enfin, il y avait quelques autres familles avec, mais nos arbres d'aujourd'hui, on les connaissait pas. Donc ces plantes-là, il faut imaginer qu'elles montaient à 30 mètres de haut, qu'elles faisaient des arbres. Et aujourd'hui, elles sont réduites finalement au sous-bois et elles sont devenues très rares au point qu'on est obligé de les protéger.
Mercredi, Camille, nous faisions étape au lac de Retournemer avec la scientifique Mathilde Esselin.
On a Mathieu, Mathilde et Jérémy. Donc, alors, je précise, c'est Mathilde qui rame pour les deux mecs, quand même.
C'est ça. C'est absolument scandaleux. Eh oh, Camille!
Je vous vois, Mathieu.
On arrive près de la bouée. Elle rame drôlement bien. Ça va, ouais. Mathilde?
Oui, ça va bien, oui.
Camille, est-ce que vous souhaitez connaître la température du lac de Retournemer?
Ah oui, j'aimerais bien quand même que vous me racontiez ce qui se passe là-bas, là. On vous a perdu avec Pierre-Olivier, là. On est en train de vous regarder. On vous fait des grands coucou.
Hello! Alors, Mathilde, on y va puisque vous avez la bouée entre les mains.
Je vous demandez de rester bien sur le côté de la barque parce qu'il faut que je la tire. Hop! Alors, à la surface, on a une température qui est de 10 degrés, un tout petit peu plus, là, en ce moment. Hop.
Une question, Mathilde Esselin. On entend, là, derrière vous, un camion passer, parce qu'il y a la route vraiment pas très loin du lac. Est-ce que ce trafic routier, est-ce que ça peut avoir un impact sur le lac?
Oui, bien sûr que ça a un impact sur le lac, parce que, ben, notamment, on peut avoir des rejets d'hydrocarbures, etc. Et comme on est dans un bassin versant, tout ce qui tombe ici, en fait, va se retrouver dans le lac. Donc, ça va lessiver tout ce qui est sur la route. Donc, autant, voilà, les hydrocarbures, et notamment en hiver, on est quand même à un massif où on a pas mal de neige et donc on sale les routes pour pouvoir rouler. Ce salage, eh ben, une fois qu'il fond, en fait, on va se retrouver tout ce sel dans le lac. Donc ça va créer différents problèmes, notamment sur la composition chimique des eaux.
Hier, nous étions à Mittelaar avec les vaches de Florent et Anne-Marie Campello.
On est en plein milieu des vaches. Il y a Louise, il y a Edelweiss, il y a Jayance qui est là.
Elles ont toutes un prénom.
Toutes un prénom et on les connaît toutes. C'est grâce à nous qu'elles sont là déjà. Et puis ensuite, on est dans cette ouverture de la vallée de la Wormsa qui domine par le Spitzkopf, qui est la montagne la plus pointue du massif des Vosges.
Ouais, on est au milieu des vaches, mais pourquoi il y a un ours à l'entrée de votre pré alors?
Ça, c'est un ours en bois, hein, on précise. Donc ça, c'est le dernier ours qui a été tué dans la vallée de Münster par un paysan dénommé Bill en 1870.
Ah, c'était Bill le chasseur, le chasseur paysan. D'ours des Vosges. Anne-Marie, est-ce qu'elles répondent vraiment à leur prénom, vos vaches?
Ah oui, tout à fait.
C'est vrai?
Ah oui.
Montrez-le-moi, prouvez-le-moi alors. Appelez
c'est qui à côté de nous là?
C'est Louise.
Alors? Louise!
Mais Louise, elle est peut-être un peu impressionnée.
Mais parce que moi, j'ai pas la bonne intonation, je suis pas assez autoritaire avec elle.
Allez-y, Florent, essayez.
Jayance! Hi! Là, elle a levé la tête, je l'ai vu.
Ah. Est-ce qu'on les dérange là ou elles nous calculent pas presque?
Non, alors si on observe les vaches là, elles sont pour la moitié couchées, l'autre moitié en train de pâturer. Donc quand elles sont couchées, elles sont en mouvement de rumination là avec leur bouche. Ça veut dire qu'elles sont tranquilles, qu'elles sont bien et quand là elles sont en train de produire du lait.
Mais Florent, vous n'êtes pas un enfant du pays vous pour le coup? Mais comment vous êtes arrivé ici au point de vous passionner
l'amour,
pour
l'amour,
la vache?
Mathieu, l'amour. Ça, voilà.
Hein. Allez, et puis un petit bonus, on peut pas résister, oui. Mathieu, avec. Votre enlisement bientôt historique hein, dans la tourbière du lac de l'Ishpa pendant votre interview, c'était avec le biologiste Thibaut Ingré.
Au conservatoire, on réalise des suivis écologiques sur ces...
Hop, voilà. Aidez-moi. Oh la vache. Je me suis enfoncé. Ah non, mais c'est hyper dangereux la tourbière en fait. Donc là, j'ai de la terre jusqu'au genou. Voilà, j'ai de la tourbe partout, en fait, et mais on s'enfonce vachement.
Oui, c'est des milieux qui sont alors réputés comme très dangereux.
Et voilà, il s'en est fallu de peu pour que cette première des quatre saisons de la Terre au Carré ne se termine de façon prématurée.
Évidemment, j'étais pas là pour filmer, quel dommage.
Alors, on a une petite coupure de liaison, mais c'est normal, on est en direct, et je vous assure qu'on travaille dans des conditions assez acrobatiques, mais ça y est, nous sommes de retour, et Dominique Schmidt, donc le frère de Claudie Hunsinger, vous nous parliez de votre combat ici pour l'agroécologie, hein.
Voilà, donc la création de la ferme, c'était il y a 40 ans, la chavrerie des Ambetsch. L'idée, c'était de montrer qu'on pouvait être un parfait protecteur de la nature, en tout cas qui essaye de l'être, et en même temps de vivre de son métier. Donc j'ai découvert à la fois le métier de paysan tout en vivant dans ce cadre extraordinaire. Et c'était passionnant de montrer que des parcours, par exemple des pâturages, pouvaient être encore couverts avec des alisiers, des sorbiers, des sureaux, beaucoup d'arbustes spontanés, et qui permet aux migrateurs de se nourrir et en même temps de nourrir les chèvres qui pâturent au pied. Mais tout ça n'est possible que si on transforme soi-même ces produits et si on les vend. Et donc c'est là que les consommateurs et monsieur tout le monde sont vraiment importants.
Claudie Hunsinger, pour terminer, vous dites à quel point c'est difficile d'écrire le réel dans les grands cerfs. Pourquoi?
Parce que nous sommes à une époque qui est très très singulière. Il y a quelque chose de grandes ombres qui s'annoncent, des choses qui nous menacent. Et en même temps, je suis quelqu'un qui une romancière de terrain. Et j'ai besoin de la joie pour écrire. Donc à la fois, il faut concilier cette joie de vivre qui est importante, qui est le total, et puis en même temps faire la part de l'ombre.
Merci en tout cas parce que c'était une grande joie pour nous de passer cet après-midi à Bimbois ici avec vous pour cette dernière journée.
Toujours accompagné par les ânes.
Avec les ânes qui sont avec nous. C'est donc terminé. La grande question qui se pose, Camille, c'est de savoir où nous allons passer l'hiver pour la deuxième de ces quatre saisons.
Mais oui, l'hiver à venir. Donc on vous propose de nous suggérer une petite destination pertinente évidemment pour parler de toutes les évolutions de la planète et du changement climatique. Donc pour l'hiver, si vous avez des idées, eh bien vous savez qu'il y a notre répondeur ouvert 24 heures sur 24. Le numéro c'est 01 56 40. 45 45. On attend vos suggestions.
Et pour terminer, nous voudrions remercier toute l'équipe technique de Radio France, Benoît Jégot, Romain Lukens et Jérémy Tuil, qui ont assuré comme des bêtes justement pendant toute cette semaine et avec lesquels ça a été aux petits oignons de bosser. Merci évidemment à Valérie Ayestaraï, Marion Philippe qui a préparé avec Lucie Sarfati, Chantal Le Montagnier et Anna Massardier cet automne vosgien. Retrouvez les 5 émissions évidemment sur franceinter.fr et les photos de notre semaine sur les comptes Facebook et Instagram de la Terre au Carré. Salut à tous, bon week-end et à lundi à Paris. We'll be right back.